The four of us are here to prevent the apocalypse. We, and when I say we, I mean everyone in this cabin can stop it from happening, but only with your help. Ultimately, whether the world ends or not, is completely up to you three.
Il devrait mettre son survêtement, il va prendre froid.
Bon, ça va pas recommencer, hein.
Car on n'est pas daté depuis quelque temps.
J'ai chaud, je me sens pas très bien.
Non, c'est le vin chaud.
Ça va aller.
Il y a du jaune, il froid, et maintenant, le bouton va arriver.
Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie avec spoiler de H.O. pour Knock at the Cabin de M. Night Shyamalan. Ouh, ça c'est fait. Voilà.
Après deux belles tentatives bien ratées.
Oui, bien ratées. Mais...
bien sabotées aussi.
C'est toujours le problème
d'enregistrer. Surtout c'est ça, quoi, saboter à mort.
Passons à la partie avec spoiler, pour qu'on puisse enfin discuter du plot du film, parce que on va pas vous mentir que c'est un peu compliqué de parler du film sans aborder le scénario.
Tout à fait.
Qu'est-ce qui se passe?
Alors, qui veut attaquer en premier?
Oh, je veux bien attaquer.
Allez, vas-y,
j'ai fait le pitch, vas-y, comment?
Bah, le pitch, il est assez simple, hein. On suit vraiment ce couple de gays qui est avec sa petite fille dans une cabine, ils passent a priori un week-end ou une semaine de vacances isolés dans la cabine.
Bien paumé la cabine, apparemment.
Ouais, bien paumé la cabine, sans service, voilà, mais il y a quand même la télé. Très important pour la suite.
C'est les Américains.
Très bel écran.
La télé. Mais ils voient débarquer en fait 4 personnes
fille,
à leur cabine. Ouais. Il y a d'abord la rencontre avec la petite
cabine,
fille.
Cabine, c'est un terme américain pour dire.
Oui, pour une cabane, cabane
ouais,
dans les bois. Quoi.
Une maison. Ouais, non, ouais, c'est pas vraiment une cabane. Cabane, c'est dans
ouais,
les
c'est
arbres.
Vrai, c'est une belle cabane.
C'est une
belle vois, maison en bois dans les.
C'est une maison.
Wow,
en bois,
wow, non, calmos, les gars, je sens une tension entre vous deux.
Calme.
Non, je dis, c'est une cabane. Non, je te jure. Tu vas la voir, ça.
Et ça, mais c'est une cabane, ça.
Il va falloir faire un choix, les gars, ok. Sinon, c'est la fin
et
du
donc,
monde.
Et donc, on rencontre le personnage joué par Dave Bautista, Léonard, qui vient à la rencontre de la petite fille et qui vient lui expliquer qu'en fait,
il aimerait être son ami
et qu'il faut qu'il rencontre, qu'il fasse la connaissance de ses deux papas.
Ses parents.
Ouais,
parce qu'il a
ne le sait pas au début.
Parce qu'il y a un choix crucial.
Parce qu'ils vont devoir faire les deux papas vont devoir faire un choix crucial pour potentiellement sauver toute l'humanité. Parce que ça, il le dit dès le départ.
Hein. Oui, c'est clair, ouais. C'est hyper clair.
C'est posé dès le départ. Nous, on est là pour empêcher l'apocalypse de descendre sur Terre.
Et voilà, il lui rappelle bien, avant qu'elle s'en aille, souviens-toi que je suis là pour être ton ami. Rappelle-toi-en tout au long de ce qu'il va se passer.
Exactement. Et donc, le pitch est posé, en fait. Effectivement, voilà. On suit ce groupe de 4 personnes qui vient expliquer à ce couple qui est là en week-end qu'il faut qu'il y en ait un des deux qui se sacrifie au nom de l'humanité pour empêcher l'apocalypse.
Ça peut être aussi la petite fille.
C'est ça. Il faut que ça vienne d'un sacrifice de leur part et il faut que le choix soit délibéré. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se suicider pour l'un ou pour l'autre. Il faut vraiment que ce soit un choix de leur part
parce que
se sacrifier.
On ne triche pas avec Dieu.
C'est ça. On ne triche pas avec Dieu. Et le deal, c'est que s'ils ne choisissent pas, les quatre qui sont là, en fait, ils choisissent un peu pour eux puisqu'ils sont forcés de se tuer. C'est un peu le premier twist et ça déclenche un premier fléau. Voilà.
Et il y a 4 au final.
Il y a 4 fléaux au final et on suit toute l'histoire du film. On suit effectivement ce dilemme qu'est présenté à ce couple de savoir est-ce qu'on va finir par se sacrifier. Donc évidemment, tout le film, il n'y a pas de sacrifice de leur part parce qu'ils paraissent un peu pour des fous. Et d'ailleurs, M. Night joue beaucoup avec ça pendant le film où justement il essaye d'insinuer auprès de nous que en fait les 4 là qui sont là en prédisant l'apocalypse c'est des fous quoi.
Ouais mais justement ça c'est mal géré. C'est très mal géré parce que justement je suis désolé mais moi dès le début leur mission est plausible. C'est ça le problème en fait c'est que du coup t'as jamais ce doute en fait à aucun moment t'as le doute que en fait ce qu'ils disent est vrai ou pas vrai.
Si il y a
à aucun moment
t'as un doute qui commence à s'installer,
artificiellement.
Tu poses la question, mais oui c'est il y a pas de profond questionnement, tu dis pas et si. Et moi c'est du coup là la fin qui me gêne un peu, c'est que pendant tout le film on t'emmène, on te dit non, il y a pas de surprise, il se passe ça, donc à chaque fois ils refusent, à chaque fois il y en a un qui meurt, à chaque fois il y a un fléau qui arrive. Donc d'abord le tremblement de terre qui provoque des tsunamis énormes, puis après la crise sanitaire, enfin une nouvelle crise sanitaire qui frappe le monde de manière éclair.
Une pandémie.
Ça c'est le truc le plus mal géré parce qu'une pandémie qui s'active en moins de 24 heures et qui commence à tuer à tour de bras.
En moins d'une heure, mais justement.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est des centaines de patients qui arrivent à
l'hôpital. Je pense que en fait, c'est un vrai défaut du film pour le coup, c'est qu'il y avait une bien meilleure idée à trouver que cette pandémie. Là, c'est un peu une facilité en disant ouais, on sort d'une pandémie. Sauf qu'il y avait.
C'est surtout de la biblique, hein. C'est surtout biblique, les gars.
Le truc des avions, les avions qui tombent du ciel, parce qu'a priori, on ne sait pas pourquoi, mais tous les avions tombent du ciel, ça, c'était plutôt, c'est plutôt pas mal géré. Et
ils se lâchent un peu, quoi.
Ouais, plaisir, voilà, c'est en fait, ça. C'est
un truc que tu t'y attends pas forcément, tu vois.
Ouais, c'est ça. Et moi, malgré effectivement les défauts du film, les quelques défauts du film, j'ai trouvé que c'était quand même un film qui t'emmenait suffisamment loin pour pas que tu t'ennuies pendant le film, pour que ça te divertisse un petit peu.
Je suis désolé, avec un concept pareil, c'est pas du divertissement que tu dois avoir. Quoi. Je suis désolé parce que tu joues avec des concepts justement d'apocalypse, de fin du monde, avec justement la religion chrétienne. Tu joues avec l'apocalypse de Saint-Jean, avec les codes que on est censé tous connaître un petit peu, tu vois, avec une vraie réflexion sur le choix, sur le sacrifice, sur la portée du sacrifice, sur la religiosité et la croyance de chaque personnage, en fait, au final. Mais ça, c'est jamais traité. Tu vois, les deux dans le couple gay, un des gars est présenté de façon, à mon avis, je trouve, peu subtile, le côté croyant. Il aurait pu aller beaucoup plus loin pour justement jouer sur le fait que, il y a cette petite étincelle où il se dit « Ah, mais... » Mais vu que je suis croyant, peut-être qu'ils disent vrai.
Mais c'est ce qui se passe.
Non, je suis désolé, je l'ai pas senti. Je trouve ça vraiment.
Si, c'est ce qu'il essaie de.
C'est exactement ce qui se passe.
Ouais, mais je suis désolé.
C'est lui qui se sacrifie à la fin parce qu'il a compris.
Il peut le traiter différemment.
Il comprend que les événements, le tsunami, tu vois, genre la crise sanitaire, les avions qui tombent du ciel et tout, il se dit que c'est pas possible que ça se passe. Ça se passe en moins de 24 heures, on va dire, sans intervention divine.
Ouais, mais il y a plus de tension dans ce cas-là. Parce que tu vois, tout repose sur le fait que est-ce que ce qu'ils disent est vrai ou pas vrai. Donc il y a une tension qui se met entre le spectateur avec ses attentes, avec ce qu'il connaît de la situation. Parce que chez Shyamalan, en tant que spectateur, t'es toujours pris par la main. T'es toujours amené ne sachant pas vers où ça va. Là.
Ouais, c'est une main, mais tu vois pas forcément qui t'emmène, quoi, en fait.
Ah oui, mais souvent si les.
C'est un peu le cas là pour le début du film.
Oui, c'est tiré d'un bouquin, mais je pense que le bouquin est meilleur parce que le bouquin. T'as pas
les
déjà tu
sont
découvres
toujours
le
meilleur.
Pas forcément. Pas forcément.
Le film le bouquin apparemment est beaucoup plus pessimiste.
Bah oui, mais ça me paraîtrait plus logique d'avoir une,
moi c'est mon problème par rapport à la fin du film justement.
Oui, mais oui, moi c'est je trouve que moi
j'aurais bien aimé savoir ce qui se passe si à la fin il y a effectivement pas un sacrifice des deux gars. J'aurais bien aimé vraiment savoir ce qui se passe si ce que dit Bautista pendant son speech de départ où tout le monde va mourir sauf les trois qui vont errer sur une terre
sauf
dévastée.
Sauf les trois, ça c'est très intéressant. Sauf que ça, et même ça, il revient là-dessus à des moments. Il revient sur cette règle-là qu'il énonce au début du film en disant que effectivement, si vous ne faites pas de choix et que mine de rien, il n'y a pas de sacrifice, les sept plaies d'Égypte arrivent sur terre.
Mais parce que c'est le concept de la famille, c'est pas le concept du couple ou de l'amour, c'est le concept de la famille et de l'amour pur qui relie les membres d'une famille entre eux.
Ouais,
et c'est pour ça que eux sont choisis.
Ouais,
donc il y a une dimension très religieuse dans tout ça, effectivement.
C'est de vomi au forceps, je suis désolé, le côté pur de leur amour. Alors, pas pourquoi, je vais pas arriver sur un débat genre famille pour tous, sur pourquoi forcément prendre un couple gay par rapport à ça, mais revenir, c'est savoir. Quel est le concept de cet amour pur selon le Dieu de la religion chrétienne?
Mais non, mais justement, je pense que c'est pas le il faut pas prendre ça sous le prisme de la religion chrétienne, je pense. Il y a une dimension très religieuse dans le film, mais à part effectivement le seul plan qui te fait insinuer assez pas très subtilement que un des deux gars est chrétien. À part ce plan-là, il n'y a pas vraiment d'aspect sur la chrétienté. Si ce n'est finalement les quatre cavaliers de l'Apocalypse qui sont.
Oui, l'analogie. Oui,
oui voilà, c'est ça. Mais il n'y a pas de.
C'est
pas,
si, c'est Apocalypse. Donc, du coup.
C'est pas Jésus, c'est une figure.
Non, mais après, de Dieu.
Après, de Dieu, oui, voilà. Fois.
Après, je ne connais pas précisément la religion juive et musulmane par rapport à l'Apocalypse. Je ne connais pas la position. Mais. Ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, à un moment, un des arguments, donc c'est Macron,
Macron.
Jonathan Groff, pardon,
moi, j'ai un problème avec ce personnage,
qui lui est le plus religieux et qui, du coup, à la fin, dit « Oui, au moment du sacrifice, de l'un des sacrifices, j'ai vu une petite lumière divine
oui, c'est ça.
Apparaître. » Sauf qu'à ce moment-là, Shyamalan nous montre pas, c'est le seul meurtre qui nous montre pas de façon détournée d'ailleurs, parce que c'est très prude hein, comme ouais, film.
Horrifique.
Vraiment,
ouais.
C'est y a très peu, il y a pas de sang, c'est là,
y a aucun, si, y a aucun sang, mais
un
pas
peu de
vu,
sang,
y a un peu de sang, mais oui, très peu. Que... Non, j'ai dit très peu. J'ai pas dit il y a aucun sang. Ouais. J'ai dit très peu de sang. Le côté justement, bah, les ils ont des grosses masses d'armes, tu vois, rien du tout. Et en fait, les mises à mort, elles sont toujours faites hors champ.
Ouais.
Alors voilà, c'est un choix délibéré pour
oui,
moi.
Parce que moi, ça, je trouve que c'était pas nécessaire de montrer les morts.
C'était pas, voilà, pas nécessaire. C'était pas nécessaire.
Parce que ça doit rajouter l'attention, sauf que moi je trouve que finalement ça rajoute pas l'attention. Et sur le seul moment où lui, Macron, fait son turnover, où il se dit ah tiens, j'ai peut-être une possibilité de doute sur ce qui est entrepris et ce qui est raconté face à moi, Shyamalan nous fait le choix de pas le montrer ce moment-là. Alors. Vous allez me dire, oui, mais vous regardez, heureusement qu'il ne nous montre pas, c'est subtil, heureusement, machin. Mais non, moi, je trouve que c'est une faute, justement, de ne pas, nous, en tant que spectateurs, nous donner des clés pour comprendre le personnage et d'aller dans son sens, en fait.
Mais ouais, moi, je trouve qu'il n'y a pas besoin. Je trouve qu'il comprend. En fait, tu comprends qu'il comprend, quoi. Il y a un moment, tu sens que, ouais, il est effectivement rattrapé par ses croyances. Et qu'il comprend que ce qu'on lui a présenté sous ses yeux sur les dernières 24 heures qu'il a
ouais,
vécu...
Ouais, mais le seul fait...
Ça peut pas être, ça peut pas ça... être fait sans intervention divine. Donc du coup, lui, en tant que chrétien, en tant que quelqu'un ayant la foi, il comprend.
Ouais, mais la seule intervention divine qui est citée dans le film par l'un des couples gays n'est pas montrée, en fait, dans le film.
Mais elle est suggérée par cette espèce de plan qu'il y a sur le miroir quand
il est pas ce plan.
Mais si,
si on le voit, si en arrière.
Ouais, t'as raté un truc là.
Ouais, il y a une lumière, on voit effectivement.
Alors moi, j'ai raté complètement. Alors,
ouais, parce que moi, pendant que j'ai vu le plan, j'ai fait ah ouais, ok, tu vois, genre en fait.
Ok, alors donc le mec, je suis désolé, c'est ce que j'ai.
Le mec a une commotion. Le mec, c'est au tout début quand les quatre arrivent, ils se défendent un petit peu parce qu'ils pensent à une attaque de gens qui sont homophobes ou violents. Et donc il y a une espèce de petite bagarre qui s'enclenche, le mec tombe, il a une commotion et je me suis dit tiens, à ce moment là il joue sur le fait que le personnage a une commotion et qu'il est en train de voir une figure divine, parce que ce que les mecs sont en train de lui raconter, c'est des gros cracks en mode ouais, c'est des mecs qui sont dans des délires apocalyptiques, trop croyants, sectaires et tout, et tu dis en fait le gars il y croit parce qu'il a vu cette espèce de silhouette
lumière,
dans le miroir pleine de lumière, etc. Et tu dis mais est-ce que pour le coup il joue avec
le fait qu'il ait
une commotion et qu'il commence à délirer et que c'est tendu, ou il y a vraiment une espèce d'intervention divine où,
bah, tu vois, ça voilà, je l'ai loupé. Je l'ai loupé et du coup moi ça m'a saoulé parce que j'ai loupé ce moment. Voilà.
Mais c'est
ma faute. Hein.
T'inquiète quand même, en l'ayant vu, enfin pour moi par exemple, ça, c'est quelque chose qui m'a. Au début j'ai trouvé ça plus ou moins intéressant, l'axe qu'il prend par rapport à ça, où il te met le doute justement, est-ce que c'est une pure croyance ou est-ce que
là,
c'est
moi,
effectivement
c'est,
des hallucinations
c'est,
qu'il a à travers son accident.
Au début quand ils arrivent tu dis tu comprends pas, et puis avec ce plan tu dis c'est pour moi ça te met le doute autant que ça met le doute dans le personnage, et autant que lui il a le doute parce qu'il se dit est-ce que c'est la commotion qui parle, est-ce que c'est la croyance qui parle, ou est-ce que c'est eux, enfin.
Ce plan là il est au tout début,
le premier meurtre.
Le premier meurtre.
Ok, alors je vois. J'ai
et c'est le plus flagrant. Et après, il y en a un deuxième encore.
C'est fugace, hein. C'est un plan de 1 à 2 secondes. Mais
il le voit plusieurs fois, il le voit au moins 2-3 fois.
Mmh. Ouais, mais bon, on rejoint donc alors le coup des extraterrestres dans Signe. Où je
le côté mystérieux, justement. Et c'est là que moi j'aime bien et que j'adhère un petit peu plus, c'est que ça me fait accrocher par rapport au film. C'est qu'il t'embrouille, justement, comme je disais tout à l'heure, où il t'emmène sur des pistes et après il revient, il te fait poser des questions. Mais moi, mon problème, justement, c'est cette fin où. Là où il y a un mystère et là où justement tu vas te poser des questions, et ça aurait été bien justement un petit peu de te laisser là-dedans. En fait, à la fin, pourquoi il doit tout nous expliquer, en fait ? Il justifie un petit peu tout ça, puisqu'en fait, il y a vraiment une intervention divine. Vu ce qui se passe à la fin,
oui,
vu ce qui
est
décidé, on peut imaginer que ce qu'il voit est réel, en fait. C'est pas du tout son hallucination. Et moi, ça me dérange. Enfin, ça me dérange.
Oui, ça m'a
cassé, en fait, dans la fin, quoi, de devoir tout expliquer. Et avec les actes, et avec après la décision, et que tout, si après, voilà, eux, ben, tout s'arrange et tout ça. Ce happy end, entre guillemets, bien sûr, c'est pas nécessaire. C'était
métaphore culinaire, très bon plat, mais pas assaisonné. Sur la fin, bah, ça tombe un peu,
ça
à,
tombe
plat.
Un peu à plat.
Crossover avec The Mummy.
Mais non, mais c'est vrai que du coup, la force, en fait, le peu de force du film se décrédibilise, en fait, à la fin, je trouve.
Ouais, c'est toutes ces justifications. Et il le fait déjà aussi dans Old, c'est pour ça que ça me fait chier. c'est que dans Old, il va dire le même sentiment avec cette plage, en fait, qui amène des phénomènes extraordinaires à travers les différents personnages qui sont dessus. Et à la fin, il se veut encore de devoir expliquer. Alors, je ne sais pas si je peux spoiler.
Non, s'il te plaît.
Non, d'accord. Mais y a, là encore, il se sent, il pousse. Et quand je disais justement que moi, c'est ça qui me dérangeait, ou toi, tu disais qu'il ne poussait pas assez, moi, je trouve qu'il pousse trop loin. Justement, il va trop loin dans l'explication. C'est pas nécessaire de nous.
Ah non, mais
nous laisse le choix et le mystère. Moi, ça me va bien. C'est ce que j'attends justement.
Je disais que par rapport à ce qui me dérange par rapport à son explication du mystère, c'est pas que. Oui, effectivement, je déteste qu'il explique trop et qu'on ne laisse pas justement en suspens. Mais le problème, c'est que c'est le travail qui est fait par rapport à cette place du mystère dans le récit. C'est ça, en fait, qui va pas. C'est que justement, c'est le fait qu'à la fin de Knock at the Cabin, on voit les badges de chaque personne, donc on se rend compte que, en fait, ils ont dit la vérité.
Voilà, exactement.
Que pourquoi le film ne s'arrête pas simplement quand il part de la cabine et qu'il marche dans la forêt, point.
La cabane en feu, c'est très bien, c'est fini, tout le monde a disparu.
Parce que justement, ce qui je trouve aurait été intéressant, c'est d'avoir le côté lunatique, en fait, le côté que ce soit des fous, en fait, qui s'approchent. Et donc, du coup, on se demandait, même à la fin, est-ce qu'ils ont raison d'avoir fait ça?
Ouais.
Est-ce que finalement le sacrifice qui a été fait et consommé et acté était-il vraiment nécessaire?
Oui.
Bah en fait, dans le film, il te dit que oui, c'est ça le truc.
Et en fait, le problème, oui, c'est ça. Mais oui, c'est ça le problème, en fait. C'est que la réponse est claire.
Et c'est ça qui est finalement décevant sur l'ensemble du film, parce que t'as une espèce de montée en puissance comme ça tout le long où on entretient une espèce d'entre-deux artificiel. Mais il y a quand même cet effet où tu te poses la question, même si. Le film t'emmène pour te dire tout ce qu'on te dit est vrai. De toute façon, ça c'est sûr. Même s'il y a des petits effets qui sont ramenés. Voilà, c'est ça. Et moi, je trouve que c'est ça qui finalement rend la fin décevante, c'est que les jalons sont posés dès le départ et ça ne bouge pas jusqu'à la fin. Et il n'y a pas de... Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de... D'ailleurs, il n'y a pas d'explication du mystère en soi, c'est juste une histoire de croyance, ça c'est sûr. Mais le fait qu'il n'y ait pas de mystère, c'est dommage. Donc du coup, le film est sympa parce que c'est intriguant, l'intrigue est sympa à suivre, etc. Mais à la fin, ça reste vraiment sans mystère, sans sel, sans peps, quoi, tu vois. Et du coup, t'es fatalement déçu par la fin parce que tu te dis, effectivement, j'ai passé une heure et demie à voir des gens qui racontaient exactement ce qu'ils disaient et puis ça se passe exactement comme ça. C'est un peu dommage, quoi.
Et le problème, c'est que le mystère reste juste mystérieux. Par exemple,
il n'y a pas vraiment de mystère.
Il n'y a pas vraiment de mystère, en fait.
Il n'y a pas vraiment de mystère. Ils expliquent tout dès le départ. C'est intriguant.
À la fin, tout est résolu.
C'est vraiment sympa de suivre cette intrigue, de se dire comment est-ce que les mecs vont réussir à les retourner, ou est-ce qu'ils vont réussir à les retourner pour qu'il y en ait deux qui se sacrifient quand même. Tu suis ça, mais à la fin, t'es là, tu dis il s'est passé ça finalement.
Mais justement,
il y en a un qui s'est sacrifié, ça a sauvé le monde, quoi.
Et vous pensez pas que
merde, quoi.
Est-ce que vous, quand vous avez vu pendant le film, est-ce que vous avez pensé qu'ils allaient faire forcément ce sacrifice? Parce que moi, dès le départ, j'ai su vers quoi j'allais.
Non, mais justement, j'espérais pendant le film que il n'aille pas au bout, qu'il ne fasse pas ce sacrifice. Même à la fin, je me suis dit, quand l'autre il a dit ouais je te crois et qu'il a dit viens on s'en va, il a pas compris en fait que l'autre était ultra sérieux. Mais j'espérais vraiment que du coup le twist de fin ce soit ça et que ça emmène le monde vers une catastrophe. Ça, ça aurait été une fin plus stylée.
J'étais exactement comme toi, moi aussi. Ouais. Le long du film, j'espérais justement quelque chose comme ça. Mais c'est ça le problème. Et quand on parle justement de montée et de crescendo, en fait, moi, le problème, c'est que très rapidement dans le film, alors j'ai quand même accroché plus ou moins, mais tout de suite, mon attente a baissé tout de suite après le deuxième meurtre. En fait. Et ça qui m'a dérangé, en fait, c'est qu'au niveau du rythme, il se répète. Et à partir du moment où il commence à se répéter au niveau des schémas de tuerie des quatre cavaliers de l'Apocalypse, là, je me dis déjà, c'est... Ok, on voit déjà comment ça va se dérouler. T'as déjà moins... Jusqu'à le dernier tiers du film, tu sais déjà en fait comment tout va se passer. Et là, du coup, tu perds en intensité au niveau de la montée et de la fin de tout expliquer en te montrant les cartes et tout ça. Et
à un moment, même si tu t'espères que non, t'as compris qu'effectivement, il y en a un qui finirait par sacrifier parce que c'est trop gros. Tu vois, c'est trop gros pour être un fake, quoi. Tout ce qui se passe, tout ce qu'ils ont vu à la télé, c'est trop gros pour être un fake. Donc forcément, tu comprends qu'il y en a un qui va finir par se sacrifier. Et même, effectivement, tu le sens parce que le gars, il est un peu chrétien, il voit une espèce d'apparition divine. Tu sens que le doute, il est rentré en lui et qu'une fois que le doute est rentré en lui, C'est foutu, tu vois. Donc tu sens ça arriver effectivement, et c'est ça qui rend le film un peu plat, et c'est dommage, parce que si justement il y avait eu un truc, une réflexion plus poussée sur la fin où on se dit bah non, tu sais quoi, on s'en fout. Ah si, on reste tous les trois et on erre sur la terre, on voit ce qui se passe. Et moi, j'aurais aimé voir un espèce de semblant de début plausible de ce à quoi aurait pu ressembler.
C'est sur l'individualisme de l'humanité qui est aujourd'hui un vrai problème dans notre monde actuel. C'est...
Ouais, mais tu vois, encore une fois, cette question n'est pas traitée sur l'individualisme, sur la fait même la croyance.
À travers le compagnon Eric, enfin le compagnon. Hey, compagnon.
Non, parce que je pense que le film se veut pas justement porter ce genre de propos. Non, je pense que la longueur du film déjà fait que pour moi c'est très bien, c'est presque par sa longueur et par son propos le film est très bien, parce que si tu rajoutes 20 minutes de plus au film, alors là t'as des moments qui tombent vraiment, je pense, dans l'ennui et dans trop justement de discours alambiqués sur la croyance sur... D'ailleurs, là le format réduit fait que c'est un petit shot, tu vois, petit shot sympa. Mais juste l'arrière-goût en bouche, il est pas terrible.
Mais d'ailleurs j'avais une question, qu'est-ce que vous pensez des inclusions des flashbacks à travers le film, justement?
Pas assez.
Ouais,
et mal fait.
Moi, il y en a où j'attendais qu'ils reviennent à la cabane, justement, des fois.
Ouais, je trouvais que c'est ça, par contre, c'était pas forcément nécessaire. Ouais.
C'était trop long.
Tu comprenais, parce que
long,
c'était toujours pour te montrer cette haine, parce qu'il prend un sujet, en fait, de l'homosexualité qui est complètement, à travers le personnage d'Andrew, qui est une victime.
Oui.
Victime totale de son homosexualité, enfin, à travers la société. Et ça, moi, c'est vraiment aussi la chose. Au début du film, tu descends au niveau du caractère des personnages, Andrew et Eric. C'est plus ou moins parallèle, et tout au long du film, les caractérisations deviennent de plus en plus extrêmes. Et c'est là que moi j'ai commencé, comme je disais tout à l'heure, à me dire ok, maintenant ça va se passer comme ça, et tu te doutes de la fin, parce que justement il crée en fait une différence tellement extrême entre les deux personnages que tu comprends que non, mais là en fait il y en a un qui va partir. C'est obligé, quoi. Il y en a un qui est tellement cartésien, qui ne veut rien croire, qui ne lâche rien, à l'autre qui commence à vriller justement par rapport à cette croyance sur la fin du monde. Et. Il s'éloigne trop pour justement avoir tenir en fait ce principe de l'amour, de la famille et tout ça, pour que ça puisse finir comme ça, juste les trois qui restent vivants.
Donc du coup, pour Shyamalan, l'amour pur, c'est l'amour d'un enfant adopté.
Non, c'est l'amour familial.
L'amour familial.
Moi, j'ai vraiment compris ça.
Au-delà de la différence, mais justement, qui transcende la différence.
Toujours ensemble.
Ouais.
Qui fait la différence justement d'un vrai amour filial entre guillemets.
Non, parce que c'est justement où là le propos est assez bien amené, moi je trouve, c'est que par cette représentation du couple gay qui adopte une petite fille vietnamienne pour qui ils ont l'amour pur le plus total, tu vois, genre vraiment c'est comme si c'était leur enfant. Mais en fait, c'est pour ça qu'ils sont choisis. C'est justement pour l'amour qui les unit et l'amour qu'ils reçoivent de la part de leur fille. Et on s'en fout qu'ils soient gays, on s'en fout que la petite fille soit adoptée.
Non, c'est vrai.
Ça renforce le propos de l'amour universel, que peu importe tes racines, peu importe tes origines, etc. C'est pour ça qu'ils sont choisis. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est un propos quand même assez noble dans le film. Et même si, effectivement, j'entends ton propos sur le manque de réalisme de ce couple gay... Je pense que c'est aussi pour pas trop stigmatiser. Ça reste américain, ça reste un film grand public, et il faut pas non plus que aux yeux des Américains, ce soit tu vois genre allez on idole ou on idolâtre une espèce d'amour gay. C'est pas ça le propos
Effectivement, il tombe pas là-dedans.
Il tombe pas justement dans ce propos-là ou dans une espèce de défense woke, etc.
Il tombe pas là-dedans, ouais. Mais ma critique, c'était par rapport à la crédibilité du couple en tant que tel.
Ça, je l'entends, oui. Vraiment. Effectivement.
Mais non, mais
l'alchimie entre...
Voilà,
entre,
le côté alchimique.
Le côté alchimie entre les deux acteurs qui sont censés jouer un couple gay et pas forcément le meilleur aspect du film. C'est pas le truc qu'on sent le plus.
Non, et pourtant, c'est quelque chose qui aurait dû entrer en ligne de compte.
Ça aurait pu aider le film à renforcer le propos sur l'amour, l'amour pur qu'on peut avoir les uns envers les autres, parce que c'est pas une histoire de sexualité ou une histoire d'amour de couple, c'est encore une fois un propos autour de l'amour universel, ce lien qui est censé nous unir tous, etc.
Mais tu vois, ça, on aurait pu le comprendre et le deviner à travers une mise en scène ou des plans qui sont montrés à travers des instants de personnages. Mais là, Shyamalan, dans le film, mais à travers le personnage de Dave Bautista, je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment, il le dit clairement. On ne savait pas que vous étiez gay, on s'en fiche que vous êtes gay, c'est pas ça. Pourquoi tu nous dis ça? C'est, on n'est pas.
Mais
pas
pour,
besoin,
les
rassur- en fait.
Pour les rassurer eux, parce que lui, le Andrew, le personnage qui est le plus anxieux par rapport à ça, parce qu'il s'est fait agresser dans un bar, etc., par un mec qui était visiblement très homophobe, et qui fait partie des quatre gars qui arrivent dans la cabane. Donc lui, en fait, il est très peureux par rapport à la situation. Il est très en angoisse. C'est pour ça qu'il a acheté un flingue.
Ouais, bien sûr.
Là, Bautista, le personnage de Lennart, vient lui expliquer simplement que
qu'il ne savait pas, qu'il
s'en fout total, ouais, qu'il soit gay. Tu vois, genre c'est juste eux. Ils ont eu des visions. On leur a dit de venir ici pour accomplir cette mission, pour
mais
demander
à un des trois
de se sacrifier.
Ça, c'est sur un plan limite filmique, on va dire, par rapport au traitement des personnages. Mais si après tu vois, pour moi, en fait, ce qui me dérange, c'est que c'est limite il va brosser un peu le spectateur en disant non, non, mais attention, hein, nous, on sait qu'on doit pas trop pointer du doigt le couple gay. On le dit à travers notre personnage. Non, non, mais en fait, on s'en fiche. Hein, vous êtes un couple comme les autres. Mais pourquoi tu es obligé de me l'expliquer? Pourquoi tu es obligé de me le dire? Oui, c'est normal.
Je sais pas. Il
y a ce truc de pousser toujours un petit peu à différents thèmes et sujets.
D'un autre côté.
On est pas si bête que ça.
D'un autre côté, il y a aussi, tu vois, genre, comme je l'ai dit, je pense que le message autour de l'amour est assez bien amené, assez bien porté dans ce film, et pas enfoncé, tu vois, genre n'importe comment.
Pas tout le temps, effectivement, mais il y a des moments où il y a ces dialogues, il y a ces réparties, tu fais bon, ok, d'accord. Mais
Non, mais après, le film a des défauts, mais moi, en tout cas, je me suis pas ennuyé pendant le film. J'ai été déçu par la fin.
Quelles sont les qualités que vous mettez en avant?
Justement,
je vous laisse parler, parce que j'en trouve aucune.
C'était vraiment dur avec le film. Mais, mais tu vois, genre, ne serait-ce que le personnage de Léonard, il est très bien joué.
Je trouve que c'est un bon choix.
Je me suis dit, en regardant le film, tu dis
oui,
jamais
mais
que...
c'est pas un peu facile, ce côté gros nounours de Dave Bautista.
Mais justement, c'est pas celui auquel tu penserais... rapidement, dans un premier temps, je veux dire, c'est même imposant, ça en vient même trop, tu vois, comme Schwarzenegger à l'époque, quoi. T'as ce personnage,
je trouve pas caricatural dans son rôle.
Non,
là où Schwarzenegger l'était peut-être,
et c'est là où le traitement de Shyamalan est intéressant, c'est qu'il arrive tout de suite on le voit comme quelqu'un de tout à fait classique, en fait, normal. Et pourtant, la première image qu'on a de lui, le plan qui arrive, on le voit, c'est un monstre.
C'est un prédateur.
Il y a plein de plans subjectifs de Shyamalan où c'est un monstre.
Mais justement, le problème, c'est que j'ai vu la bande-annonce. Et dans la bande-annonce, ils te grillent un peu, ils disent que bon, voilà, on vous enferme, mais c'est pour votre bien. Attends, parce qu'on file le feu à Morgane. On vous enferme, mais c'est pour votre bien. Et donc, du coup, même si j'ai vu la bande-annonce il y a deux mois, là, du coup, le fait qu'il soit très calme, que toute la mise en scène ait fait en sorte que, voilà, attention, trigger warning, attention, Dave Bautista est le gros nounours méchant, il paraît prédateur, mais qu'en fait, c'est quelqu'un qui veut du bien.
Enfin, tu vois, Winnie
l'ourson. Tout ce côté, oui, c'est Winnie l'ourson. Et tout ce côté, justement, de vouloir jouer avec l'attente du spectateur, un peu comme dans Barbarian, où, en fait, le personnage de Bill Skarsgård est présenté comme un prédateur dès le début, parce que, justement, on joue avec le spectateur sur l'attente et sur les connaissances de ce que c'est un Dave Bautista en tant que grand méchant, entre guillemets. Donc, moi, je trouvais que c'était maladroit d'aborder cette séquence au niveau de la direction d'acteur et de la mise en scène, ou le faire paraître encore plus géant, parce que justement il est toujours filmé en contre-plongée, et donc du coup de le voir beaucoup plus grand qu'il ne l'est, beaucoup plus imposant par rapport à cette toute petite frêle fille vietnamienne qui justement fait une action tout à fait enfantine et cruelle. Mais moi je trouve que c'est une faute de mise en scène et une faute de direction d'acteur de placer le scénario. C'est une première pierre dans le grand édifice de l'artificialité de ce film.
Non, mais je comprends exactement.
Pardon, je parle, les gars.
Oui, non, mais je t'écoute, mais je trouve que justement, t'es trop dur avec le film parce que...
T'es trop dur, JB.
Ouais, je trouve que t'es trop dur avec le film. J'entends tes critiques, mais c'est vraiment pousser la réflexion trop loin pour ce qui est censé être le film, déjà de base, juste un divertissement.
Moi, en me laissant porter, je retrouve le Shyamalan.
J'entends, je comprends, je comprends. Mais
c'est quoi le Shyamalan? Qu'est-ce qu'il voulait dire à travers cette histoire? Parce que justement, qu'est-ce qui t'intéresse?
Je pense pas qu'il essaye de faire passer un propos quelconque dans ce film, en fait. Vraiment. Je pense qu'il y a zéro. Justement, il n'y a pas de parti pris.
Parce que là, pourquoi faire ce film alors?
En fait, il y a
tirer cette histoire de ce bouquin, le tirer, le faire en film. Non, alors, en fait, si t'as pas de.
Il y a une interview de Shyamalan en fait où il explique qu'il aime en fait. C'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup en fait. Et il a ça à travers lui. Il aime traiter en fait des sujets horribles, des sujets en fait très noirs, très apocalyptiques. Mais il a toujours cette bonne pensée à la fin, ce qui lui permet justement, parce qu'il a ce côté en fait où ça lui permet de sortir de ça. Il dit que c'est comme ça justement que ça lui permet de pouvoir rentrer dans des sujets aussi durs, aussi horrible que la fin du monde et devoir faire le choix d'un sacrifice de quelqu'un.
Oui, mais ce choix éthique, justement, ce choix éthique n'est pas traité comme un choix. Ce choix éthique est traité comme un argument choc de scénario et non pas comme un vrai choix moral et éthique comme ce que ça devrait être. Tu vois, c'est le fameux. Tu vois, quand t'as deux rails de tram et tu sais que tu dois faire un choix. Soit tu tues une personne, soit tu tues un groupe de personnes.
C'est la fiche de Jean-Claude Van Damme, full content.
Mais dans le sens que, tu vois, toute l'éthique que vous avez abordée là, justement, par rapport à ces dilemmes moraux, au final, cette éthique, je ne l'ai jamais sentie. Et même, tu vois, tout l'aspect...
Moi, je trouve qu'il y a une mise en scène au début...
En quoi ?
Qui... Bah en fait, c'est ça que j'ai bien aimé aussi dans tout le début du film, un peu, c'est au niveau des cadrages, comment est-ce qu'il t'amène un peu toute cette tension et ce mystère. On est vraiment sur des plans décalés où d'habitude, t'as tout le temps. Il aime beaucoup les gros plans, je sais pas si vous avez remarqué, mais pendant le film, en fait, il aime bien vraiment focaliser sa caméra sur le visage.
Et surtout Dave Bautista.
Pardon. De face comme de dos. Il y a ce plan souvent où on voit les deux attachés sur les chaises et tu vois la tête de Bautista entre les deux de dos, en fait. Mm-hmm. Tu vois juste son crâne rond. Et ça, c'est des plans un peu sympas, quoi. Mais même au niveau des cadrages, tu vois, l'écran, en fait, généralement, tu vas essayer de centrer où t'as des points un peu comme ça. T'as 4 points dans un écran, généralement, pour pouvoir un peu cibler la. Ouais. L'action. Et lui, en fait, il aimait bien, par exemple, t'as une scène à la fin, qui est la plus flagrante, où le père, en fait, quand le ciel est sombre et que son copain est mort, il est complètement en bas à droite de l'écran. C'est un cadre que tu verrais jamais dans les. C'est en limite, on dirait, non, tu me refais ça, tu me le ressens trop mieux. Là, non, lui, il aime bien, t'as ce côté décalé, en fait, tout de suite.
Oui, même au début, quand il se parle, les visages sont décalés.
Ouais, c'est toujours un peu
recadré. C'est les visages qui sont décalés, c'est pas le cadre qui est décalé, c'est juste les gens qui se parlent.
Ouais, mais dans le cadre.
Toi qui te donne ce sentiment d'incompréhension finalement quelque part entre les deux personnages de Léonard et de Wayne, la petite ouais. fille. Mais ouais, non, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment un message quelconque derrière ce film. Je pense que c'est un film dans lequel il se fait plaisir, il raconte une histoire de fin du monde, il y a un choix moral à faire, il y a la question de la croyance qui est toujours là, ça c'est sûr. Mais je ne sais pas s'il y a un vrai message derrière ce film, si ce n'est que asseyez-vous pendant 1h40 et puis je vais essayer de vous divertir, quoi. C'est vraiment, moi en tout cas, c'est comme ça que j'ai reçu le film.
C'est
vraiment comme ça que j'ai reçu le film. J'ai reçu le film comme un divertissement parce que le principe de départ est déjà tellement alambiqué. Les mecs arrivent, on dit nous, on vient empêcher l'apocalypse. Ah ouais, ok. Tu vois, genre, ça fait 10 minutes que t'es dans le film. Tu connais déjà le pitch global du film. Nous, on est là pour stopper l'apocalypse. Il faut qu'il y en ait un de vous deux qui se sacrifie. Point barre. Si vous vous sacrifiez pas, c'est la fin du monde.
Oui, ça c'est l'enjeu.
Et après, il faut faire tomber ça, quoi.
C'est toujours le coup des vrais ennemis et des faux ennemis. Et des amis nazis. Et des faux amis.
C'est toujours les nazis.
c'est toujours, et au final, c'est toujours le nazi à la fin. Mais en sens que ici, le faux ennemi. L'ennemi qui est le faux ennemi, c'est Dave Bautista, enfin c'est le groupe de 4.
Ouais, mais ça dure vraiment pas longtemps.
Et qui du coup, qui est en même temps un ami et en même temps un faux ami. Du coup, je trouve que au niveau de ce triangle entre guillemets de narration entre de relation entre les protagonistes, les amis, l'ennemi final global qui est justement Dieu. Et je sais pas si vous voyez, il y a le protagoniste, l'ennemi final, c'est Dieu,
ouais.
Parce que c'est Dieu qui doit.
Entre les deux, il y a le
faux ennemi qui est Dave Bautista, mais qui est en fait un ami. Mm-hmm. Mais je trouve que cette situation est beaucoup trop mal travaillée et beaucoup vraiment pas du tout mise en exergue dans le choix éthique que doit faire le protagoniste par rapport à l'enjeu du film, c'est-à-dire faire ce choix moral.
Ouais, je comprends que tu trouves qu'il n'y ait pas assez de grandeur autour du choix moral qui se dessine devant eux. Ça, je peux le comprendre. Effectivement, c'est un aspect qui aurait pu être plus travaillé, plus poussé, plus réfléchi en tout cas. Et effectivement, d'imposer ce choix moral. Mais je ne sais pas si ça aurait renforcé finalement la tension que tu peux ressentir dans la... Non, en tout cas, moi, j'ai ressenti, parce que t'es un peu en huis clos avec eux, tu vois. Ils t'expliquent leur truc, mais d'un autre côté, il faut se mettre à la place de ce couple à qui on vient annoncer que, soi-disant, c'est la fin du monde et qu'il va falloir se sacrifier. Tu vois, genre...
Ah, mais justement, toi, en tant que spectateur,
t'es dans l'incompréhension un peu, quand
toi,
même.
Toi, si t'es dans la même situation, imaginez, on se retrouve dans la même situation. On te dit, c'est la fin du monde, on te montre des images, et d'ailleurs, ces images qui sont montrées à travers la télé n'est quasiment... est très peu remis en question, même si ça l'est remis, mais je trouve pas assez bien. Moi, je suis non.
En gros, il le remet constamment en question.
Il le remet, mais je suis désolé, c'est
sur le cas du Covid, il le remet, tu vois.
Oui, il le remet. Oui, mais c'est pas
même avec les séismes sur les heures, il joue sur les heures.
Il joue sur les heures, ok, parce qu'il garde tout le temps leur montre en fait dans les quatre cavaliers de l'apocalypse dans le film. Mais en même temps, je trouve que les conversations, pour moi, ne sont pas réalistes pour un sou.
Ah bah, le moment où le personnage de Léonard, il parle, tu vois, genre une demi-seconde avant la présentatrice, parce qu'il a eu les visions de ce qui était annoncé aux news, là, je pense que c'est bon, t'as compris, quoi, tu vois.
Oui, là, t'as compris, tu sais que c'est un montage, mais justement, tu comprends qu'en fait, c'est un montage et que tout l'enjeu narratif pourrait justement basculer, de se dire, bah, en fait, il raconte que des couilles et c'est une espèce de secte débile qui font juste un crime homophobe. Ils auraient pu jouer sur cet aspect-là.
C'est ceux qui jouent au début.
Très peu.
À travers Andrew, à travers très justement peu. À travers son agression.
Mais justement, ça tue à la fin, ça, l'agression.
Non,
je pense que justement, c'est le genre de sujet sur lequel il faut pas s'arrêter dans ce genre de film, parce que sinon, tu fais traîner le film en longueur, il fait 2h15 et ça devient chiant.
Non, mais pas forcément. Mais
c'est clair que là, 2h15 de ça, ça aurait été.
Ouais,
vrai,
tu vois, alors que là, je trouve que justement, ok, certains sujets sont survolés, certains sujets sont pas assez approfondis, on pourrait en apprendre plus sur le background des personnages, on pourrait mettre plus en avant le côté, effectivement, la grandeur de ce choix moral qu'ils doivent faire, etc., pour littéralement sauver l'humanité. Je comprends. Mais si on s'attarde trop sur ces sujets, on va sur un film qui va être ultra clivant, qui va opposer des visions de la vie. Et je pense qu'encore une fois, c'est pas du tout le propos du film. Le propos du film, c'est d'être un bon divertissement. Il rate sa fin, mais ok, certains sujets sont survolés, mais au moins, on reste pas dans un truc un peu clivant. Peut-être que c'est trop lisse pour le coup. Peut-être
mais justement, pourquoi c'est pas clivant? Pourquoi mais ça ne devrait pas être clivant?
Parce que je pense qu'il n'y a pas besoin que ça le soit.
Ouais, parce que je pense qu'aussi, Shyamalan, il prend plus de risques.
Et ouais, ça, peut-être oui, qu'il y a aussi un petit peu effet...
Il veut faire de l'audience.
Chat échaudé craint l'eau froide, quoi, tu vois. Donc, mes expressions de l'ancien siècle.
Mais ça sera moins sec.
Je pense que...
Faut que tu les sortes à chaque fois, à chaque
podcast. C'est juste un film, à mon avis. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai pris. J'avais pas vu de bande-annonce. Je me suis dit, ok, ça dure... Généralement, la longueur du film te donne assez d'indices sur le fait si c'est un film qui va se poser, qui va te passer des messages, ou si ça va être un film assez court, assez tu vois, comme John Wick, quoi, tu vois, genre par exemple, John Wick, ça reste un film très sympa, mais en gros l'histoire c'est juste une vengeance personnelle du gars.
Oui,
quoi.
C'est très simpliste, mais le scénario est dense, mais en même temps je trouve que John Wick, dans ses enjeux, est beaucoup plus crédible et même ses choix moraux entre guillemets.
Bah c'est une ligne droite, quoi.
Oui, mais ses choix moraux sont beaucoup plus, je trouve, j'ai été beaucoup plus empathique avec John Wick dans ses choix
avec
moraux.
Avec la petite Wen.
Mais ouais. Mais franchement, et du coup, Wen, je suis désolé, mais moi, la petite gamine, elle m'a, je trouve, insupportable. Je ne l'ai pas dit avant, mais...
Je ne l'ai pas super non plus.
Je ne l'ai pas top.
T'es vraiment dur avec le film, je trouve, quand même.
Mais, oui, je sais, mais il faut bien aussi, parfois, oui, non, que je quelqu'un...
Comprends. Attends, je comprends.
J'ai une question pour JV. Qu'est-ce que tu as pensé de la photo?
Pas dingue, j'ai trouvé non, j'ai pas trouvé dingue, j'ai trouvé tout à fait comme la réalisation, tout à fait passable en fait.
Parce qu'en fait, le responsable
de la photo
c'est celui de Robert Iger.
Ah, purée,
il a bossé sur The Witch, Lighthouse.
Ah bah, pourtant, là, autant là, les autres ils faisaient du bon taf. Là, je trouve que c'est tout à fait
classique.
Il n'y a pas effectivement de plan qui se démarque, et même dans certains effets spéciaux, c'est pas forcément. C'est un film qui n'a pas dû coûter très cher à faire, je pense.
Il a coûté 20 millions.
20 millions.
Et ouais, il rapporte bien, là, en ce moment, il atteint quasiment, il va atteindre les 55 millions.
Ouais. Donc, il s'est remboursé, bien. Mais...
Moi, je trouve que c'est un bon... En fait, c'est clairement pas un grand film, ça, c'est sûr, mais ça reste un bon divertissement. C'est un peu, je dirais, dans la veine de... du film de... sur lequel on a fait un podcast, comment il s'appelle déjà ?
Young E.
Non.
Je n'osais pas le sortir.
Non, le mec de Us et de Get Out.
Ah, Jordan Peele, Nope.
De Nope. Ah, je dirais que c'est un peu un film dans la veine de Nope.
Plus d'ambition pour moi, Nope.
Nope, non, parce que j'ai revu récemment Nope d'ailleurs. C'est
marrant. Ouais.
Et ben, en fait, Nope, c'est marrant parce que j'avais trouvé que au départ, à la première vision, j'avais trouvé que le début était chiant, que le milieu était bien et la fin était très nulle. Là, j'ai trouvé que le début était très bien, à la deuxième vision. Le milieu, très bien aussi. Et la fin commençait à tomber complètement à plat. Je trouvais juste que les analogies avec Jaws, que je l'avais dit... je trouve que là, ça sautait aux yeux.
Vous avez parlé beaucoup.
Vraiment, avec Jaws, ça saute aux yeux, mais à mort.
Et c'est assumé de la part de Jordan Peele. Hein.
Bah ouais, mais là, c'est trop. Et je trouve que l'histoire avec le singe, mais mine de rien... d'un putain de rapport dans le film et je trouve déforce complètement
à part
le
si
film.
Tu considères la maltraitance des animaux.
Oui, c'est de faire le lien avec les animaux, avec la nature et les extraterrestres, la nature, machin, ce genre de bullshit.
Ouais.
Mais je trouve que finalement, en revoyant, je l'ai encore trouvé moins bon. Ah.
Mais ça fait partie de ces genres de films qui sont, je pense... passable ou bien au premier visionnage et qui valent pas forcément le coup d'être vu. Et je pense que oui, effectivement, Knock at the Cabin, une fois que tu l'as vu une fois, c'est pas un film qui vaut le coup d'être
exact.
Vu.
Ouais, mais Knock at the Cabin n'est pas aussi prétentieux que Nope, parce que du coup, voilà ce que je vais de rajouter par rapport à Nope, c'est que Nope est hyper artificiel et hyper prétentieux. Là, je trouve que t'as Shyamalan qui n'est pas prétentieux, mais qui est artificiel.
Ouais, oui, je peux. Mais par rapport à tes précédentes critiques, oui, je comprends.
Je vais pas continuer à tirer sur l'ambulance.
Non, mais.
Mais dites-moi encore.
Ambulance.
Ne parlons pas de Michael Jackson. C'est ça. Dites-moi encore quelques arguments positifs, s'il vous plaît.
Bah, moi, je me suis pas ennuyé. Le rythme est plutôt bon dans le film. La fin me déçoit, mais en soi, les 1h40, je les ai pas trop senti passer. Et je me souviens qu'on a fait une. J'ai fait une petite pause vite fait. Et rester 20 minutes de film, un truc comme ça, je me suis dit, tiens, putain, ça fait déjà un petit moment que c'est passé. J'ai pas vu le film passer, en fait. Mais par contre, j'étais vraiment déçu par la fin. J'étais vraiment pendant les trois quarts du film, je me suis dit, ouais, c'est pas mal quand même. Je l'ai dit un moment pendant le film, en plus, je trouve que c'est plutôt cool, c'est plutôt bien fait. Et la fin est décevante. Mais pour moi, ça n'enlève pas quand même certaines qualités au film, dont le jeu d'acteur. La réalisation qui est pas trop mal, c'est pas une réalisation de fou, t'as pas des plans des glingos ou quoi que ce soit, mais
pourtant, c'est mieux que ses précédents films, je trouve quand même.
Enfin, il y a rien des choses qui m'a négativement choqué dans le film, même la fin, si décevante soit-elle, elle est finalement logique par rapport au reste du film, et c'est son plus gros défaut au film, c'est qu'au bout d'un quart d'heure, on te dit ce qui va se passer.
Même pas, c'est encore plus.
Ouais, 10
ça,
minutes, un quart d'heure, on te dit ce qui va se passer, c'est et c'est exactement rapide. Ce qui va se passer dans le film. Et toute la question est de se dire à un moment, est-ce que en fait t'es entretenu par le film pour dire est-ce que ça va se passer, est-ce que ça va pas se passer.
Du coup, je vous pose la question de quel est l'intérêt du fantastique là-dedans, justement l'intérêt de ce
dire d'une parce que c'est son truc. Shyamalan. Il aime bien, à chaque fois il faut qu'il en pose quelque part, il faut qu'il en sème un petit peu dans tous ses films.
Mais c'est presque pas fantastique, c'est juste biblique en fait.
Oui, mais d'où le.
Bah, ouais, si on considère que voilà, la religion.
Mais parce que après, il peut y avoir du fantastique. Oui. Il peut y avoir du fantastique dans la religion. On est d'accord, mais j'ai pas trouvé que c'était un film fantastique. C'est pas de la veine.
Non, clairement pas, parce qu'on est plus sur une espèce de thriller biblique entre guillemets.
Ouais, on est même pas trop dans le mystère, parce qu'il y a pas de mystère dans le film.
Je préfère Le Nom de la Rose dans ces cas-là.
Oh, putain, oui.
Il y a pas de mystère. Non, voilà, pour moi c'est vraiment un film qu'il faut prendre comme il est, un divertissement, et puis après bien évidemment qu'on a le droit de pas aimer, évidemment.
C'est gentil, merci.
Évidemment.
Mais est-ce que pour vous c'est la confirmation du retour de Shyamalan?
Il faudra voir avec les prochains. C'est pour le coup, il abandonne un petit peu les twists, c'est dommage.
Mais est-ce que ouais,
non, mais c'est... il a toujours le principe du plot fort, quoi.
Oui, c'est les pitchs à la. Pour moi, c'est les pitchs à la. Stephen King. Je suis un grand lecteur, mais pas de Stephen King. Et pourtant, j'en ai lu quand même quelques-uns. Mm-hmm. Et je trouve que c'est toujours des super pitchs. de départ, vraiment des trucs bien, mais ça finit toujours par un cimetière indien. Et là, le cimetière indien de Shyamalan, c'est Dieu.
C'est un cimetière à Dieu. Ouais.
Cimetière à Dieu. C'est ça.
Mais non, ouais, c'est.
Allez, un dernier mot, Lionel, pour défendre le film. S'il te plaît.
Non, c'est quand même. On en parlait tout à l'heure avec Morgan juste avant le podcast. C'est un film en fait qui attendait en fait d'être fait. C'est un scénario qui date depuis 2019, qui était un peu mis sur les listes noires en fait des films hollywoodiens. Et c'est intéressant d'avoir mis ça à l'écran, parce qu'effectivement, je pense que en livre, en récit, ça doit être plus intense. Il y a moyen de plus rentrer dans les choses justement. Et,
je pense aussi.
Et quitte limite à ne pas avoir cette fin optimiste, mais apparemment plus. Pessimiste, beaucoup plus pessimiste sur l'état de l'espèce humaine. Et malgré ça, quand même, je trouve que le film a quand même tenu pendant plus d'une bonne moitié du film, du temps. Mais comme je disais tout à l'heure, à partir du moment où tu comprends un peu les mécanismes et que tu te dis, ah ok, il va par là, et que tu commences à tout expliquer, et que ça, avant la fin du film, il commence à dire, ah, il y a des éléments qui commencent à t'expliquer, comme je disais tout à l'heure avec Dev Patita qui t'explique tout. Putain, ok, d'accord, ok. En fait, il va tout nous lisser. Et c'est vrai, ouais, ça revient un peu à ce dont tu parlais tout à l'heure. C'est peut-être ce côté un peu lisse, du coup.
C'est un peu trop lisse, ouais.
Un peu trop lisse par rapport au traitement.
On va essayer de choquer personne, de faire comprendre le.
Tu fais,
le
ouais, non, là,
maximum de monde.
Tu me prends même plus par la main, tu me prends dans tes bras, en fait. Là, tu me portes là jusqu'à la fin du film. Donc, c'est un dommage.
C'est un peu trop grand public, peut-être, pour le coup. L'absence de violence montrée, ouais. De sang, etc. Les sujets de société qui sont un petit peu survolés, justement, avec la situation de ce couple gay, même les histoires de croyances, tout est un petit peu survolé, mais c'est aussi, je pense, vraiment une volonté, sans doute, de sa part, de vouloir froisser personne. C'est... Moi, je vois ça comme ça, en fait, et comme vraiment, prenez-le pour ce que c'est. Un bon moment quand même.
Okay. Moi, et toi, JB,
pas passé un dernier
mot. Un dernier mot, ben non. Écoute,
non. C'est non.
Nope.
Non, tu mettrais combien sur 10?
J'allais vous poser exactement la même question. Franchement, ouais. J'allais vous poser, c'était ma question suivante. Moi, je lui mettrais un 4.
Un 4, ok. Moi, je lui mettrais un 7.
C'est ce que j'allais dire aussi.
7, peut-être un petit peu en dessous de 7, parce que la fin est quand même trop décevante pour lui donner plus que 7. Mais
7, c'est beaucoup, hein, quand même.
Mais c'est pas. En fait, j'ai vu la note sur IMDb, c'est 6,6.
Ah, oui, j'ai vu 6,1.
6,1 ?
Ouais.
Ah, bah écoute, j'ai du mal voir, mais je trouve que du coup, c'est un petit peu sévère par rapport à la qualité globale du film.
6,2, pardon.
Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seront aussi de ton côté, JB, en pensant que le film n'est pas bon parce que ça survole trop de sujets, etc. Et puis il y a d'autres comme moi qui vont trouver ça assez sympa parce que pour moi, même si effectivement tout est raconté dès le début du film, il n'y a pas de grosse faute, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'incohérence au niveau du scénario. C'est. Tout reste crédible, en tout cas de mon point de vue, et c'est quelque chose qui est très important pour moi, la crédibilité. Mais après, encore une fois, ça reste subjectif parce que c'est mon avis à moi.
Mais c'est pas grave que parfois, dans certains scénarios, on sache dès le début comment ça va terminer. J'ai pas d'exemple là précis en tête parce que je suis un peu fatigué.
Ah non, mais c'est pas le. C'est
où t'as d'autres, justement, des films où ils te disent, tu sais, dès le début comment ça va se finir.
Bah, t'en as un très bon là, en ce moment qui repasse au cinéma, c'est le 12 novembre, la nuit du 12 novembre. La nuit du 12, ouais. C'est une histoire vraie où tu sais déjà la fin, il n'y a pas de twist, il n'y a pas de.
C'est comme le film de Ben Affleck quand il part de l'ambassade des États-Unis.
Ah,
Argo.
Oui, film, là, tu as du true story, tu as du événement réel qui fait que tu connais. Oui, c'était au-delà de. Je voulais dire par rapport à. J'ai pas de référence par rapport à des films, c'était au-delà des films inspirés de faits réels ou du Titanic, par exemple. Titanic, tu sais très bien que la fin, il va couler. Mais le voyage que le film te propose t'apporte autre chose.
Oui, ça, non, mais ça, je comprends. Mais encore une fois, je reste persuadé que ce genre de film, comme Nope, c'est des films qui sont bons. Qu'au premier visionnage.
T'es pas passé.
En fait, par rapport à ce que tu dis, oui, là, il propose un voyage, en fait. Il propose un voyage à travers. Bah, au début, il y a une promesse, quand même. À travers ce truc où
la
il
promesse.
Faut.
Alors là, je suis désolé. Bah, non, il y a pas de promesse. Non,
bah,
la promesse,
comment est-ce que ça va se passer.
Il y a un déroulé. Il y a pas une promesse.
Non, ouais.
Il y a un déroulé, c'est pas pareil. Une promesse, c'est pour le spectateur, la promesse. La promesse que tu vois quelque chose de différent. Là, le truc, c'est qu'au spectateur, on te dit directement. Ok, ça va se passer comme ça. C'est pas grave en soi, c'est vraiment pas grave. Pour moi, c'est pas un tu.
Non, mais c'est comme ça qu'on le perçoit. Mais moi, je pense que dans le film, c'est ce qu'il lui essaie de faire. Puisque vu qu'il essaie constamment un peu de faire changer d'avis par rapport aux différents protagonistes, t'as de l'empathie, t'as plus d'empathie.
Tu l'as senti vraiment ça tout le temps ? Bah, pour moi, c'est tout l'intérêt du film, justement.
Au début, dans la première bonne moitié, tu passes un peu de l'un à l'autre de chaque côté. Quoi. Tu poses des questions.
C'est une question naïve, hein. Vraiment. C'était, est-ce que tu
je sais, je sais. Mais après, peut-être qu'il y a une DA aussi qui, moi, fonctionnait sur moi. Dave Bautista, moi, il m'a pas choqué pendant son traitement, même s'il a dit des choses, enfin, il disait des choses comme je reprenais tout à l'heure, mais franchement, autrement, son personnage.
En tout cas, je suis sûr que je me suis plus amusé que devant The Fablemans. Je dis ça sans l'avoir vu.
T'as été dur, tu l'as même pas vu, t'es encore plus dur que j'y vais.
C'est vraiment un film que j'ai pas envie de voir, je suis désolé, mais il ne dit absolument rien ce film.
Écoute, c'est comme ça, c'est pas grave.
On ira voir Aquaman. Non, le dernier Ant-Man.
Non, on va aller voir Empire of Light.
Ça, c'est le prochain podcast et on va essayer de caser un Fablesman entre.
Ouais, mais sans moi.
Oui, sans toi.
Désolé.
Sans toi.
Je vous lâche sur ce
peut-être
coup.
Avec Jérémy, du coup.
Juste,
un coup de CP sur Jérémy.
Jérémy, toi et moi. Ok, et bien maintenant, on va passer. On a terminé ?
Ouais.
On a terminé. On va passer maintenant à la partie Erratum.
Pour revenir un peu donc, sur notre dernier podcast qui était sur le film The Banshees of Inisherin.
Très bon film. Ah, quel
classe. Là, un très bon film.
Pas vraiment d'Erratum. Puisqu'on
a été excellent
court et on n'avait pas, il n'y avait pas vraiment de choses, on en est resté vraiment au fait du film, donc on ne s'est pas trop aventuré à dire des choses, on va dire, sur l'histoire et tout ça. Mais du coup, j'ai un peu regardé un peu le film, son parcours après sa sortie.
Après
notre avis, non, pas vraiment. Mais un peu
est-ce que le bouche à oreille a fonctionné grâce à nous.
Qu'est-ce qui s'est passé pour ce film? Est-ce qu'il a marché et tout ça? Donc, à savoir que c'était un film qui avait un budget de 20 millions de dollars, il en a rapporté là, à ce jour 45 millions. Donc pour un film comme celui-ci, c'est pas le trophée, la
grosse
victoire.
Guillaume Canet.
Mais
oh, ça dénonce ici, ça tire à balles réelles. Cachez-vous.
Le prochain, c'est toi, Philippe Lachaud.
Non, Philippe Lachaud, on l'aime bien, il est marrant.
Non.
Ah bon?
Ah non.
Moi, j'aime bien.
Non.
Mais après, c'est de l'humour. Non. C'est, ça vole pas haut, mais c'est marrant. C'est marrant.
Ça, c'est de non.
Je suis passé un bon moment.
Ça, c'est non.
Ma mère et ma sœur ont été le voir. Elles étaient mortes de rire du début à la fin.
Mais c'est un film. C'est aussi.
Ah, tu l'as vu ?
Non, je l'ai pas vu encore. Mais ça fait partie de ces films. Il en faut quoi. Il faut des films populaires comme ça. Il faut que le cinéma puisse parler aussi.
J'ai rien contre le populaire.
Mais
il y a Guillaume Canet pour ça. Qu'est-ce que tu racontes ?
Non, ça par contre, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. On rigole pas avec.
Et il y a tous les films avec Christian Clavier. Je comprends pas là.
Par exemple, Christian Clavier. Tu sais que c'est un mec qui est hyper populaire en France. Et t'as Christian Clavier sur ton affiche, tu sais que le film il va un peu marcher quoi.
Bah, il va rapporter.
Même si mais je suis d'accord pour dire que tout n'est pas bon, mais il y a des trucs des fois qui sont un peu marrants, qui parlent aussi à certaines personnes, qui ont un certain humour. Il en faut des films comme ça. C'est un peu à l'époque à l'époque on chiait sur la gueule d'Eric Aramzi pour La Tour Montparnasse Infernale, pour Seul Tout. Pour des films qui a priori sont mauvais, il y en a dans le lot qui sont mauvais, mais
Seul Tout, j'en avais entendu parler.
La Tour Montparnasse Infernale, c'est devenu un film mythique, quoi.
Ouais, Eric et Ramsey, pour moi, c'est banco. Hein.
Y a des gens pour qui la bande à Fifi et leur humour, ça leur parle.
Non, c'est
vrai. Tu vois, genre, mais ça, c'est, je peux comprendre les gens qui n'aiment pas ce film-là, mais au moins il y a un effort de la part du réalisateur de continuer à proposer le même style de film, le même humour, etc. Peut-être que ça va finir par lasser les gens. Mais je trouve ça toujours mieux que l'espèce de daube que nous a sorti Guillaume Canet pour Astérix.
que tu as été le seul à voir.
Voilà,
courageux,
donc,
merci beaucoup.
Je suis désolé, mais à un moment, il faut un peu respecter l'œuvre originale. Et dans Astérix, l'œuvre originale, elle est bafouée. Quoi.
Et donc, c'est l'avantage de Philippe Lachaud, c'est qu'il ne se base sur rien. En fait.
Voilà,
c'est que des créations
originales. Il a son propre humour, c'est
ses
très
idées originales dans ses films.
Mais,
il a carrément créé.
Pourquoi on a commencé à parler de Alibi?
C'est lui.
Parce qu'il fallait aller voir ce film-là plutôt que
parler de Banshee.
Tiens, prends ça dans ta face. Tu disais Guillaume Canet pour reprendre tes mots exactement. Connard de Guillaume Canet.
Non, je l'ai pas insulté. J'ai juste dit prends
ça.
Ça,
c'est moi. C'est moi qui l'ai rajouté. Non, mais du coup, donc effectivement, bon, un succès, voilà, c'est pas non plus un. Mais par contre, niveau critique, il a eu de très très bons retours. Et avec les derniers festivals de cinéma qu'il a pu avoir ces derniers mois, il a quand même raflé pas mal de trophées.
Genre.
Il a Mostra de Venise, prix du meilleur scénario. Golden Globes 2023, il a eu 2023 meilleur film également en tant que comédie. Colin Farrell, pareil pour la Mostra, meilleur acteur. Et au BAFTA, au BAFA, il a tout rapporté, quoi. Meilleur film britannique, meilleur scénario, meilleur second rôle pour Barry Keoghan, dont on a beaucoup parlé pendant le podcast.
Il est nominé aux Oscars, le film, ou pas ?
Pour les nominations aux Oscars, on a...
Parce qu'il doit être dans la catégorie meilleur film étranger, non ?
Mais, non, meilleur film. Meilleur film, meilleur réal, meilleur scénario original, meilleure musique de film.
Pour les Oscars ?
Il y a tout, ouais, pour les Oscars. Ah, acteur, Colin Farrell, tout.
J'espère qu'ils vont avoir un ou deux Oscars. Après, ouais. Ils n'ont pas beaucoup touché sur les cérémonies avant.
Oui, c'est vrai.
C'est souvent
aussi,
Everything Everywhere qui a pris beaucoup.
Peut-être qu'ils ont donné Everything Everywhere et que pour les Oscars, ils vont faire un peu autre chose.
En fait, ce qui est assez incroyable avec A24, c'est que là, apparemment, pour les Oscars 2023, ils ont des nominations un peu partout. Il n'y a jamais eu autant de nominations par rapport à une boîte de production. Ouais. Ce n'est pas tant par rapport à Everything Everywhere All at Once, mais par rapport aux différents films représentés par A24 pendant les Oscars. Quoi. Donc, c'est... Ouais. C'est bien, mon avis, A24, ils vont bientôt le revendre, quoi. Ils
allez
sont vraiment
voir,
au top.
J'espère pas qu'ils vont revendre. J'espère qu'ils vont rester comme ça.
Non, à mon avis, ils vont se rapprocher d'une grosse.
Moi, j'espère qu'ils vont rester comme ça.
Ils attirent trop.
Ouais, mais bon.
Mais regardez Banshee of Inisherin, si vous voulez pas.
Ouais, voilà.
Exact.
C'est ce qui fait le sel de A24, c'est qu'ils restent comme ça, en fait.
Et le public, et les spécialistes et les professionnels du milieu ne se sont pas trompés. Non, par contre, je voulais juste revenir sur une rectification par rapport au film. Il y a un moment où on parle de la guerre qu'il y a à côté, en fait, en toile de fond de tout le film, et on parle de guerre d'indépendance. Toi JB, en fait, tu précises que c'est la guerre d'indépendance pendant le film, alors que pendant le film il parle de la guerre civile. En fait, il y a une différence entre les deux. Pas la même chose, la guerre d'indépendance en Irlande, en fait, elle s'est déroulée de 19 à 21. Et c'était en fait l'IRA, donc l'armée républicaine irlandaise, contre l'armée britannique et la police irlandaise, en fait.
D'accord.
C'était en fait à partir de là qu'il y a eu le traité, en fait. Ils ont ratifié en fait le traité. C'est là qu'ils ont ratifié le traité de Londres, en fait, qui a donné en fait son indépendance à l'Irlande du Sud et en fait la création de l'Irlande du Nord sous le gouvernement britannique, quoi. Et alors que la guerre civile, elle, en fait, c'est la suite. C'est la contestation par rapport à ce traité de Londres, en fait, qui, elle, par contre, opposait en interne, en fait, les Irlandais.
D'accord, ok.
Et donc, en fait, c'est celle-ci qu'on entend, puisqu'elle, elle est de 22 à 23. Et pendant le film, en fait, c'est cette guerre civile. C'est pas tant contre les Britanniques, c'est surtout, en fait, la guerre interne
entre les
Irlandais.
D'ailleurs, justement, qui est l'analogie pure, la métaphore entre les deux, entre Colin Farrell et Donald
Glover. Oui, on abordait le sujet justement à la fin du podcast. C'est flagrant, en fait, quand tu revois le film un peu sous ce prisme-là, c'est vraiment ça, quoi. C'est interne, donc c'est deux communautés amies qui se tapent dessus, quitte à en arriver à une guerre, quoi, en fait.
Tout à fait.
Et à l'explosion, donc c'est d'autant plus flagrant, quoi. Et concernant la guerre d'indépendance, par contre, pour un film, il y a un film qui en parle très bien, nominé aux Oscars, de Ken Loach, Le Vent se lève. Donc si vous l'avez jamais vu, allez voir ce film, c'est une pure pépite.
Merci pour le recours.
Wally Wallou.
Ok. Eh bien merci les gars.
Avec plaisir.
Ce fut
comme
sympa de regarder ce film avec vous, c'était chouette.
Même si tu n'as pas aimé.
Mais oui.
On est désolé pour
toi. Même si vous avez aimé, je suis désolé pour vous.
Moi j'aime pas quand j'ai aimé un film et que les autres n'ont pas aimé. Je trouve ça dommage. Je me dis, j'aurais bien aimé que les gens y passent le même moment.
JB, pour l'avoir vu des fois sur des films qu'il a vraiment détesté comme Halloween Ends, il est beaucoup plus virulent que ça. Là ce soir, t'as pas aimé, mais tu nous as laissé parler. Alors qu'Hollywood Ends, bon, c'est vrai que moi aussi j'avais détesté, mais là ça a été. C'est comment que tu avais dit si on allait voir le dernier Ant-Man ? Hashtag ça va bitcher.
Ouais, ça va bitcher, va bitcher sévère.
Et là, c'était hashtag ça va bitcher.
Mais c'est pour ça que je ne tente pas d'aller voir le dernier Ant-Man.
Bon, on avait pourtant dit que potentiellement on pourrait se le faire, mais bon, on en dit des choses.
C'est quand même le premier film de la nouvelle phase de Marvel.
Qui va diriger
le cinéma actuel, les gars, quand même.
Le cinéma du futur.
Après le futuroscope, Marvel.
Le Marveloscope.
Marveloscope.
Non, mais c'est un vrai problème, par contre, ces films Marvel qui n'ont rien à raconter et c'est juste du
Love
show,
and Thunder, c'était déjà catastrophique.
Et non seulement c'est long, il n'y a rien à raconter.
Tu sais combien a fait Love and Thunder au box-office ?
Pas beaucoup.
Thunder.
Non, il a fait Love and Thunder. Il a fait plus de 700 millions.
Ah oui, quand même.
Ouais. Comment tu veux que ces mecs ils se disent chez Marvel pourquoi on changerait la recette alors que ça fonctionne, quoi. Il faut que celui qui arrive là il se plante. Déjà Black Panther, il y avait des très mauvaises critiques, mais je crois qu'il a encore fait un bon score.
Tu vois, il faudrait que l'apocalypse ait lieu, comme ça on a une bonne désolé.
Recommandation de JB pour le podcast, l'apocalypse, les gars. Faites-vous un petit
Moi je veux voir Gog et Magog venir défoncer toute la Terre. Je vous incite à relire votre Apocalypse, les enfants.
C'est noté.
Recommandation. Voilà,
comme ça, vous pourrez triper avec moi sur Gog et Magog.
D'accord. Ok. Ça roule.
Voilà, voilà. Bref, bon, bah, sur ce, merci les gars pour cette
avec plaisir.
Ce
avec plaisir. À bientôt. Pause.
Toujours un plaisir.
Et écoute, on vous a... écoutez. On
écoutez.
Vous
écoute, 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 auditeur.
Allez.
Ciao, ciao.
À très vite.
Ciao, ciao.